Le Tour Alternativa fait de nouveau escale à Arras après son passage en 2015. Les rouleuses et rouleurs étaient de retour pour aller à la rencontre des Arageois. Un village associatif s'est implanté sur la place du théâtre pour les accueillir dans la convivialité et la bonne humeur. Mais qu'est-ce que le Tour Alternativa ? En tous les cas, ça n'a rien à voir avec le Tour de France, aucun Romain Bardet ou Christopher Froome en tête d'affiche, mais des citoyennes et citoyens engagés et militants qui sensibilisent au dérèglement climatique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter Xavier Herman, organisateur local du Tour Alternativa 2018. Il nous explique entre autres le pourquoi du comment de cet événement.
Militant associatif au sein du groupe local de Greenpeace et donc j'ai pris la décision de prendre en charge l'organisation avec l'aide d'autres associations, donc cet accueil du Tour Alternativa aujourd'hui ce 19 juillet donc pour l'étape d'Arras, l'étape qui fait donc Amiens-Arras.
Alors donc là on est au cœur du village associatif en place du théâtre, on en reparlera un peu après. Peut-être pour rappeler aux auditrices et auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que le Tour Alternativa, un peu sa jeunesse, comment ça a commencé, comment ça a débuté ?
Alors le Tour Alternativa, donc il est né il y a 3 ans. En 2015, donc c'était en préalable donc à la conférence de Paris sur les changements climatiques, la COP21. Un certain nombre de personnes avaient eu l'idée de faire un tour de France afin de promouvoir les alternatives au dérèglement climatique, au changement climatique, et en apportant les solutions et en allant au plus près des hommes et des territoires, parce que les solutions elles se trouvent en majorité au niveau des territoires. Donc là on renouvelle cette opération 3 ans après, en 2018. Donc aujourd'hui le Tour Alternativa c'est 5800 km exactement en vélo en tandem, 3 places et 4 places, on appelle ça des triplettes et des quadruplettes. Et donc avec la même idée hein, d'aller au plus près des territoires, d'aller visiter un peu les villes, les villages qui sont en transition à ce niveau-là et découvrir un peu les bonnes choses qui se font au sein de nos territoires. Et puis promouvoir un peu par tous ces échanges donc les solutions au changement climatique. Et aujourd'hui donc là on est en juillet, donc on est en pleine sécheresse, on voit que les changements climatiques c'est quelque chose de très très réel et qui nous affecte tous les jours, hein, même si effectivement avoir du beau temps c'est pas mal, mais là la sécheresse vraiment elle se fait vraiment sentir et on sent les choses quand même vraiment évoluer très très rapidement aujourd'hui, et il est temps qu'on se bouge quand même les fesses par rapport à tout ça.
Alors le parcours a commencé donc à Paris, je crois que c'était le 9 juin, c'est quoi le parcours exactement ?
5800 km exactement en 200 étapes. Donc effectivement le tour est parti le 9 juin de Paris, donc il est descendu jusqu'en Auvergne, il a remonté par la côte atlantique, la Bretagne, la Normandie, et donc il arrive aujourd'hui dans notre région. Donc il était à Amiens hier soir, donc aujourd'hui à Arras, demain à Hénin-Beaumont et puis à Losangoël, et après donc il y aura tout un parcours donc au travers du Nord et du Pas-de-Calais. Après la Belgique, donc on voit qu'on passe aussi les frontières, hein, donc le tour continuera sa route jusque Bayonne avec une arrivée prévue le 6 octobre prochain.
Alors j'imagine qu'il y a un carnet de route aussi qui est tenu pour vous tenir au courant un peu de tout ce qui se passe. Quel est le bilan déjà depuis le 9 juin dans les villes dans lesquelles vous vous êtes arrêté ?
Effectivement, donc il y a un bilan qui est fait chaque soir avec des informations qui sont mises en ligne très très régulièrement par rapport à ça. En tout cas, ça mobilise pas mal de monde, pas mal d'associations, et que les territoires sont tous en train de se bouger par rapport à ça. Voilà, je pense que le bilan définitif, on l'aura donc à partir du 6 octobre, donc ou après, et on verra un peu quel changement, vers quels seront les aspects positifs, quelles leçons pour attirer de tout ça.
Alors, quand on s'arrête de ville en ville, quand on parcourt 5800 km à vélo, comment ça se passe en termes logistiques? Est-ce que dans chaque ville, il y a des associations qui les accueillent? Où ils dorment, ces gens qui roulent à vélo? Est-ce que ce sont toujours les mêmes qui font le parcours?
Non, bien sûr, ce ne sont pas toujours les mêmes, quoique il y a peut-être quelques personnes qui, effectivement, font beaucoup plus d'étapes que d'autres. Mais non, mais la plupart des cyclistes font 5, 10 étapes, 15 étapes peut-être. Et donc, chaque ville étape les accueille donc, et en offrant un peu ben, tous les services qu'elle peut proposer à ce niveau-là. On les accueille aussi pour une conférence sur les changements climatiques, une conférence débat. Et après, l'idée, c'est de partager ensemble également donc, un repas donc, sous forme d'auberge espagnole, par exemple. Ensuite, effectivement, ben, il faut les héberger. Donc, on a 13 cyclistes à héberger. Donc, on les fait chez les particuliers ou alors dans des lieux collectifs, comme ici, donc à la maison diocésaine d'Arras.
D'accord. Les villes dans lesquelles vous passez, est-ce que c'est plus de la sensibilisation où il y a déjà beaucoup d'initiés justement qui connaissent le dérèglement climatique et qui ont déjà pris tout en compte?
Non, il y a déjà effectivement des territoires qui sont très très en avance par rapport à ça. Je pense notamment à l'étape qui va suivre à Los Angeles, où là on est sur une ville qui a pris énormément d'initiatives donc en termes de transition écologique. Mais après effectivement on a des territoires qui peut-être sont un peu en retard par rapport à toutes ces questions-là, qui n'ont pas encore suffisamment pris conscience des réalités. C'est tout l'enjeu et c'est le but également de ce tour d'ailleurs. C'est de créer des synergies entre habitants, entre associations, en se découvrant, parce qu'il est possible aussi qu'on ne se connaisse pas dans certains territoires. Et voilà, tout ça, on espère que ça va créer vraiment beaucoup, beaucoup d'émulation et beaucoup de choses positives qu'on va pouvoir construire ensemble après, donc dans le futur.
Le village associatif, pourriez-vous décrire un peu quel genre d'association est présente sur ce village?
Alors, on a un certain nombre d'associations locales et nationales, et, tout en étant présents localement. Par exemple, ici dans la Rajoie, donc, on a Au Secours 62, on a Rivière Nature et Patrimoine, on a Alter Circuit, on a Artisans du Monde, hein, qui est très, très connu en France également. On a donc le groupe local de Greenpeace, hein, qui est une association nationale et internationale, mais présente localement où on relaie les campagnes nationales et internationales donc, de Greenpeace. Voilà, après, bon, c'est vrai qu'en cette période estivale, il n'a pas été simple de mobiliser les gens. Bon, c'est un peu normal. Les gens sont en vacances. Et voilà. En tous les cas, on a réussi à créer un tout petit village associatif. Et c'est, je pense, déjà pas mal.
Il y a également quelque chose qui se passe à la Maison des Sociétés. Il y a un rendez-vous qui est pris.
Oui, alors c'est une formation gratuite qui est proposée par Alternativa et ANV COP21 pour une formation sur la non-violence qui est absolument nécessaire par rapport au combat que l'on peut mener. Hein, donc ces combats naturellement se mènent dans un... naturellement en absence de violence, et en tous les cas donc on aura deux formateurs qui seront là pour proposer un peu des solutions, nous mettre également en situation par rapport à ces enjeux. Et voilà, donc je pense que personnellement moi je vais découvrir un peu de quoi il s'agit. Je peux pas vraiment vous dire plus par rapport à ça.
Enfin, va nettoyer les plages, faire passer le message pour la lutte antispécisme et contre l'anthropocentrisme, pour protéger les semences, remettre en question la croissance, faire interdire les pesticides, préserver les zones humides.
Comme on l'évoquait avec Xavier Hermont, quelques associations militantes étaient présentes sur ce village associatif, dont, et ce n'est pas une surprise, l'ADAV, Association Droit au Vélo. On écoute Laure Olivier, membre de cette association, qui nous rappelle leurs objectifs.
Alors,
Olivier Bou, faites partie de l'ADAV, l'association Droit au vélo. Pouvez-vous nous rappeler un petit peu en quoi consiste cette association ?
Donc, c'est une association qui promeut l'usage du vélo au quotidien, donc qui a des actions à la fois en direction des cyclistes et en direction des collectivités pour promouvoir les aménagements en faveur des vélos.
Alors j'imagine que votre présence ici elle n'est pas anodine hein, puisque Alternadiba ça se passe à vélo. Est-ce qu'il va y avoir des réparations éventuellement peut-être ?
Alors on n'a pas prévu de le faire là aujourd'hui, mais il y a des bénévoles de l'atelier qui sont là. Il faut s'adresser à eux et ils sont tout disposés à venir donner des petits coups de main, des petits conseils pour les réparations.
Vous avez des actions prévues bientôt cet été ou courant peut-être à la rentrée ?
Alors notre prochaine action c'est dans le cadre de la semaine de la mobilité, donc nous serons présents le samedi 22 septembre au matin sur, au pied du Beffroi, toujours voilà, pour la promotion du vélo, et l'après-midi la communauté urbaine, dans le cadre de l'agenda environnement de la communauté urbaine, un atelier vélo est proposé.
Est-ce que la DAV également se bat pour les pistes cyclables dans les villes, notamment sur Arras ?
Oui, alors les pistes cyclables, mais pas que. Également la réduction de la vitesse de la voiture en ville, hein, comme la zone 30 qui a été mise en place dans le centre-ville d'Arras, qui pourrait s'étendre sur d'autres zones apaisées de l'agglomération. Et puis tous les aménagements, les arceaux, les lieux de stationnement pour les vélos. Et ce qu'on appelle plus globalement le système vélo, hein, d'avoir la possibilité de louer un vélo facilement, de pouvoir le faire réparer. Un système qui est au bénéfice à la fois du quotidien pour avoir une ville plus apaisée, et puis du porte-monnaie de chacun, et aussi de la pollution de l'air, parce qu'on sait qu'on est dans une région très polluée.
Alors j'imagine évidemment que la piétonnisation définitive de la place des Héros vous fait plutôt plaisir.
Oui, bien sûr, c'est certain. Et on espère que la Grand Place et la Place du Théâtre suivront, voilà, pour une ville plus apaisée.
Avant de retrouver deux rouleuses en interview qui nous expliqueront leur parcours, je vous propose d'écouter le petit discours d'une des participantes qui a pris la parole pour rappeler les enjeux climatiques à peine après avoir lâché le guidon.
En gros, l'idée là, c'est qu'on va essayer de vous expliquer pourquoi on est là, de vous faire passer notre message. Quel regard porteront les gens vivants en 2040 sur notre génération ? Et dans quel monde vivront-ils ? Les réponses à ces deux questions sont profondément liées. Et elles dépendent de ce que nous allons faire ou ne pas faire aujourd'hui et dans les années qui viennent. Le modèle de développement qui s'est imposé depuis la révolution industrielle a commencé à perturber en profondeur le climat de la Terre. Si nous n'agissons pas rapidement et massivement, ce phénomène va s'aggraver et s'accélérer. Il risque de devenir incontrôlable et irréversible. Montée des océans, multiplication des catastrophes climatiques et aggravation de leur violence, pénurie d'eau potable et pénurie alimentaire, migration forcée de populations de plus en plus nombreuses, disparition de milliers d'espèces animales et végétales. Le monde que nous connaissons depuis 10 000 ans est en train de changer profondément. Le dérèglement climatique est déjà une tragédie pour des millions de personnes, principalement dans les pays du Sud. À Paris, en 2015, 196 chefs d'État ont signé un accord international sur le climat. Mais qu'est-ce que va changer cet accord ? Va-t-il entraîner le changement radical dont nous avons besoin pour rester en dessous des 1,5 degrés de réchauffement ? La réponse est non. Et pire que ça, l'accord nous emmène vers plus 3 à 4 degrés. Et si, et seulement si, les 196 États respectent cet accord, ce qu'ils n'ont aucune obligation de faire. Mais soyons clairs, la bataille pour freiner le dérèglement climatique n'est ni gagnée ni perdue. Elle se joue aujourd'hui et la mobilisation citoyenne va être essentielle. Le 6 octobre 2013 à Bayonne, nous lancions un appel à multiplier les Alternatiba, village des alternatives au changement climatique partout en France et en Europe. C'est un pari fou. 4 ans et demi plus tard, c'est un pari réussi. Plus de 130 villages ont été organisés. Il n'y a plus de doute, les citoyens se bougent partout, contrairement à nos dirigeants. Le Tour Alternatiba, organisé par les Amis de la Terre, Action Non-Violente COP21 et Alternatiba, est aussi un pari fou. Pendant 4 mois, nous parcourons plus de 5800 km pour alerter sur l'urgence climatique. Pendant 4 mois, nous traversons 200 territoires à la rencontre des alternatives qui construisent une société plus juste, plus solidaire et plus durable. Nous constatons, avec le Tour Alternativa, que nous sommes déjà des milliers à avoir intégré les alternatives dans nos vies. Alimentation paysanne, locale et durable. Compte courant dans une banque éthique comme la NEF. Économie dans un système d'épargne solidaire comme Terre de Liens ou Énergie partagée. Déplacement quotidien en vélo ou en transport en commun. Électricité 100% renouvelable grâce à un fournisseur comme Enercoop. Et tant d'autres nouvelles possibilités. Pour que ces alternatives deviennent la norme, il faut que les collectivités locales les soutiennent. Elles ont une responsabilité directe ou indirecte sur 50% des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons donc lancé la campagne Alternative Territoriale pour pousser nos élus à intégrer des mesures ambitieuses dans leurs plans climat locaux. Ils doivent bouger, ils n'ont pas le choix et c'est à nous de leur rappeler. Mais ce n'est pas tout. Les alternatives à elles seules ne suffiront pas à réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Nous devons aussi nous opposer et résister aux projets et aux entreprises qui continuent d'aggraver le dérèglement climatique. Et pour ça, nous proposons l'action non violente et la désobéissance civile. Un mode d'action puissant et efficace pour lutter contre ce monde dont nous ne voulons pas. Ce que nous construisons ensemble, c'est un mouvement de masse citoyen, non violent, radical et déterminé pour le climat. Et tout le monde peut y trouver sa place. Nous sommes toutes et tous concernés. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer. Ensemble, nous sommes une force immense. Et ensemble, nous pouvons changer le système. Alors rendez-vous les 6 et 7 octobre à Bayonne pour l'arrivée du Tour et le grand village des alternatives au changement climatique qui rassemblera 30 000 personnes. La bataille du climat, c'est la bataille pour l'avenir de l'humanité. Elle n'est ni perdue, ni gagnée. Elle se joue maintenant. Vous êtes la génération climat. Participez au mouvement pour écrire la page la plus importante de l'histoire de l'humanité. Vous trouverez aussi sur le stand toutes les informations sur nos différentes campagnes et projets. Nous vous invitons aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube sur laquelle nous avons lancé un vlog qui permet de suivre à la fois les aventures du Tour tout en pouvant approfondir les réflexions sur les questions du dérèglement climatique.
On retrouve à présent Rebecca et Stéphie pour nous en dire plus et établir un petit bilan des dernières étapes.
Rebecca, j'ai fait trois bonnes semaines sur le Tour par plusieurs étapes, donc le grand départ à Paris jusqu'à Orléans et après une partie entre La Rochelle, j'ai remonté jusqu'à la Bretagne et puis là je suis revenue il y a une semaine à peu près.
Stéphie, donc moi j'ai fait que deux jours, donc je suis arrivée à Beauvais, on est passé par Amiens et aujourd'hui on est à Arras.
Il a fait chaud, donc forcément, comment ça se passe? Vous avez ainsi un staff comme ceux qui peut-être ont sur le Tour de France, imaginons ça?
Alors oui, il fait relativement chaud, surtout là, sur la première semaine on avait de la pluie et depuis plus du tout. Mais au final, c'est pas tellement le vélo en fait, notre plus grand problème entre guillemets. Quand on est sur le vélo, au final on se repose. Donc c'est vraiment, on est là pour porter un message sur chaque arrivée d'étape. C'est pour ça qu'évidemment on a aussi un camion qui transporte du matos, on a un grand stand. Parce que l'idée c'est pas de faire du vélo pour faire du vélo, mais pour porter un message qui est celui de l'urgence climatique, des alternatives qui existent partout sur les territoires, donc sur les 200 territoires qu'on traverse, qu'on peut s'en emparer pour faire face à ce défi climatique, et aussi de former des personnes à l'action non violente et la désobéissance civile pour faire face au projet climaticide.
On fait également des conférences pour parler effectivement de ce problème qui est le dérèglement climatique et des solutions qui existent déjà et qu'on peut mettre en place aujourd'hui et aussi comment résister contre les projets climaticides des multinationales et des États.
Alors parmi évidemment toutes vos étapes, vous rencontrez des gens, comment ça se passe avec eux? Est-ce que c'est des gens qui sont déjà sensibilisés et qui vous connaissent depuis 2015 ou c'est des gens qui vous découvrent et finalement vous arrivez quand même à les changer un peu en quelque sorte?
Alors déjà au niveau des étapes, on a essayé de faire un tracé différent de 2015. Déjà on n'est pas parti de Bayonne mais de Paris, donc on fait le trajet à l'envers. Et oui, on passe par des territoires nouveaux, donc des nouveaux collectifs qu'on n'a pas encore rencontrés, donc de nouveaux groupes locaux, Alternativa ou Amis de la Terre, ANV, qui se créent, mais aussi par exemple parfois on est accueilli par d'autres associations, la LPO, ça c'est déjà fait. Donc là on crée des liens entre différentes structures qui peuvent travailler sur l'écologie au sens large, mais peut-être créer de nouveaux ponts. Et parfois on touche aussi un public complètement nouveau. On avait une étape par exemple à Derval où il y avait une brocante en même temps et donc ça c'était super, et des personnes du coup qui viennent par hasard peut-être à la conférence et qui repartent, on espère, un peu changées.
En fait, la plupart des personnes qui viennent, c'est des personnes plutôt sensibilisées, enfin plutôt conscientes de ce problème du dérèglement climatique. Mais souvent, ils ne savent pas toujours comment agir. Et nous, on leur apporte des billes sur, en fait, même nous, à notre échelle, on a des leviers d'action. Et souvent, ils en repartent avec l'envie d'agir. Et je trouve que c'est ça, c'est chouette. Et dans tous les cas, de toute façon, on sème des petites graines qui pourront pousser peut-être plus tard, en fonction de la maturité de la réflexion sur le sujet, quoi.
Et justement, ce parcours, comment vous choisissez les villes ? Est-ce que c'est, j'imagine que c'est quand même pas par hasard.
Alors, il y a certains territoires par lesquels on voulait passer parce qu'ils sont symboliques. Donc, par exemple, Notre-Dame-des-Landes, on est passé par là.
Bure, peut-être, non ?
Bure aussi, on va aussi passer par Bure. Europa City, on a fait aussi. Alors, voilà, des grands projets où on veut montrer notre soutien, notre présence. Après, il y avait le trajet à peu près qu'on a imaginé et ça s'est fait en fonction aussi des envies des acteurs locaux.
Et donc l'arrivée à Bayonne, c'est prévu pour le ?
6 et 7 octobre, grande fête, 30 000 personnes attendues, tout le monde est invité.
J'imagine que tout le long de votre parcours, vous avez quand même certainement peut-être une anecdote un petit peu, on va dire, particulière que vous avez rencontrée durant tout ce voyage.
Alors des anecdotes, on en a beaucoup, oui. Des anecdotes toutes bêtes de personnes qui partent avec les clés de nos triplettes et du coup on se retrouve avec les vélos attachés, on ne peut pas partir. Mais aussi au niveau des rencontres, des situations parfois rigolotes mais dont on ressort toujours avec une bonne expérience.
Évidemment, le vélo c'est fatigant quand on est crevé. Comment vous arrivez à vous remotiver ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vraiment il y a une solidarité, j'imagine, aussi qui se passe entre vous ?
Alors c'est vrai que c'est super dur le vélo et aussi on dort vraiment pas beaucoup parce que le soir on a encore du travail quand on arrive, on a souvent de la mécanique à faire mais pas seulement, la communication aussi. Par exemple on fait ce petit vlog sur YouTube, donc on filme aussi, on coupe, on monte, enfin voilà. Et c'est vraiment déjà la dynamique de groupe qui donne énormément d'énergie et on fait des choses qu'on pensait pas être capable de faire. Mais aussi à chaque fois qu'on arrive sur une étape, il y a des personnes qui nous attendent, qui ont travaillé pendant des mois pour rendre ce moment possible, qui sont là, qui nous accueillent de façon incroyablement généreuse. Donc ça donne beaucoup d'énergie et d'énergie positive.
C'est vrai que c'est beaucoup les rencontres qui nous donnent cette énergie pour avancer. Et puis la conscience qu'il faut absolument faire passer ce message et rendre massif le mouvement pour une justice climatique. Donc on est aussi motivé parce que c'est notre avenir qui est en jeu et voilà, on est là pour ça, quoi.
Et une question qui me vient à l'esprit, on est en pleine période du Tour de France, est-ce que vous allez rejoindre certainement peut-être une ville où il y a le Tour de France qui fait une étape ?
Alors on a croisé le Tour de France en effet, on voulait faire une convergence à Chartres mais on n'a pas pu, donc on s'est incrusté un peu dans le Tour à Dreux.
Et comment ça s'est passé ?
On était un peu choqués, pour être tout à fait honnête, par la caravane du Tour. Oui. On a pris un peu en plein visage tout ce contre quoi on se bat. Mais bon, on a pu profiter un tout petit peu quand même de l'attention médiatique. Et puis c'est des personnes aussi qui, je pense, sensibilisées au sujet de la mobilité douce, donc un public intéressant avec lequel on veut converger et pas s'opposer. Voilà.
C'était un sujet autour de l'étape à Arras du Tour Alternativa 2018. Si vous désirez en savoir plus ou suivre leur vlog pour connaître les prochaines étapes et suivre leurs activités, rendez-vous sur le www.touralternativa.eu. On leur souhaite bon vent pour la suite et un bon coup de pédale jusqu'à Bayonne. Et pour clore ce sujet, on se replonge dans l'ambiance de l'hymne du Tour Alternativa 2018, composé par Calune, intitulé « Les fleurs de la résistance ».
Prends soin de notre terre parce qu'on est bien les seuls à pouvoir le faire. On y met beaucoup d'amour au nom de tous. toutes ces choses qui nous entourent. On se bat pour un avenir meilleur. On fait ce qu'on peut, ce qui nous semble bon. Pardon si on fait des erreurs. On pouvait pas rester dans l'inaction. Faudra en grimper des étages, en inventer des solutions. Remplacer le béton par du végétal. Le vert est la couleur de la révolution.
On se bouge, on se lance, on vise l'autosuffisance. Et on ose, on propose un profond changement des choses. On se bouge, on avance dans la désobéissance. Et on sème, on échange les fleurs de la résistance.
On en passera des nuits debout et des journées à genoux dans les champs. On apprendra de nos doutes toujours, dans le partage et dans l'échange. Ensemble, on s'en ira le long des routes, montrer comment la nature se défend. Si on refuse de le faire pour nous, qu'on le fasse au moins pour nos enfants. Parce qu'on veut pas être complice, faut bien qu'on puisse faire pousser des astuces. S'extraire de ce qui nous divise, faire notre part et 100 fois plus. Sans jamais oublier nos piliers, d'un côté je m'oppose, de l'autre je propose. Puisqu'il semble que nous sommes les derniers à pouvoir faire changer les choses.
On se bouge, on se lance, on vise l'autosuffisance. Et on ose, on propose un profond changement des choses. On se bouge, on avance dans la désobéissance. Et on sème, on échange les fleurs de la résistance. Les fleurs de la résistance. Les fleurs de la résistance.
On va nettoyer les plages et faire passer le message pour la lutte anti-spécisme et contre l'anthropocentrisme. On veut protéger les semences, remettre en question la croissance, faire interdire les pesticides et préserver les zones humides. On montre ce qu'on a dans le ventre, on remet l'écologie au centre, le cœur plein de bienveillance, que notre combat ait un sens pour l'accueil de l'étranger, pour faire pousser des forêts, pour une justice climatique, un changement de paradis.